Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un deuxième entretien des clés pour vivre pour intervenants, témoins. Je reçois une journaliste, Clotilde Margotin, auteure. Et bonjour Clotilde.
Bonjour Nathalie.
Ravie de vous recevoir sur un tel sujet qui est un sujet très délicat.
Merci de me recevoir.
Et merci à vous. Ce livre, Se relever toujours, paru aux éditions Arthège très récemment, au cœur de cet ouvrage, c'est aussi votre expérience, je dirais, de femme, d'épouse, de mère. Vous avez, je dirais, je parle de courage, 13 ans après, il aura fallu 13 ans hein, pour se décider peut-être d'exposer un peu cette part sombre, douloureuse de votre histoire, puisque vous avez fait l'expérience d'une dépression sévère, c'est bien le terme?
C'est une dépression sévère.
Oui. Vous nous avez donc très vite donné tous ces critères qui pourraient peut-être alerter certains de nos auditeurs. Fatigue sévère, troubles de la mémoire, culpabilité, grande fatigue. Donc être peut-être à l'écoute, peut-être peu, donc allons au cœur de ce sujet dans ces premières minutes. Souvent, des personnes qui peuvent être avec ces troubles et cet état dépressif, on peut parfois dire, et c'est ce que vous me disiez hors antenne, Clotilde Margotin, tu t'écoutes trop. Voilà, et on aurait parfois un peu ce premier mouvement d'inviter la personne qui se lamente à lui dire mais bouge-toi, réveille-toi. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez avec une telle expérience puisque vous avez vécu pendant près de 5 ans cette dépression sévère? On vous écoute.
Et qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est légitime qu'un proche ait comme première réaction de dire « Allez, bouge-toi, tu t'écoutes trop en avant ». Parce que je pense que dans une situation normale, classique, qui ne serait pas médicale, on a tous des moments où on est découragé, fatigué, et où finalement le proche qui vous dit « Allez, avance », ça redonne plutôt du courage. Simplement, dans une situation où ces incitations à la volonté et au courage ne seraient pas une aide, mais seraient perçues comme quelque chose d'intrusif, de cassant, là il y a une alerte. Et c'est peut-être ce qui est difficile, c'est que c'est à la personne qui elle-même souffre d'être en alerte. Et ça, c'est très difficile parce que quand on souffre, en tout cas de dépression, on est dans une incapacité de volonté, puisque au niveau neurologique, les neurones sont atteints au niveau de la volonté. Donc ça, c'est un exercice très difficile et c'est peut-être pour ça que, puisque moi, je suis passée par là et qu'avec le recul de 13 années, je peux en parler, c'est peut-être pour ça que j'ai tant besoin de le dire, c'est que des personnes qui en souffriraient puissent être alertées. Parce qu'en fait, on ne peut pas condamner un proche de dire « bouge-toi ». En première réaction, je crois que c'est plutôt un proche qui aime celui qui souffre et qui a envie de le faire sortir de cet état. Alors maintenant, peut-être un mot pour les proches, justement. Si on voit que ces incitations à l'action, au courage, ne fonctionnent pas, attention, il faut peut-être en tant que proche prendre un petit peu de recul. Et même si on est exaspéré, même si il faut peut-être prendre ce recul de se dire « En fait, la méthode que j'utilise n'a pas l'air d'aider. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon aide auprès de lui ou auprès d'elle pour que ça ait une action positive ?» Et dans ces cas-là, je propose d'essayer autre chose. D'essayer de dire « Tu es apparemment en train de vivre quelque chose que je ne perçois pas. Je voudrais te dire que je suis là pour toi. Quoi qui t'arrive ? Dis-moi ce que tu vis. » C'est-à-dire d'ouvrir l'autre à la parole, d'être dans l'écoute, d'être dans l'acceptation de ce que veut bien livrer l'autre, et non plus dans « je te plaque la bonne façon de faire, je t'envoie en fait les forces que j'ai moi ». Mais c'est terrible pour celui qui souffre, parce qu'il ne se sent pas rejoint dans l'état dans lequel il est.
Il ne se sent pas écouté ? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un mal dans notre société, notre monde aujourd'hui, Clotilde, dans finalement un peu ce mal qu'on ne sait pas réellement avoir cette écoute active au quotidien?
L'écoute active, voilà, j'ai même fait des formations pour
vous
faire
êtes aujourd'hui,
de l'écoute active.
Oui, aujourd'hui, vous êtes aussi accompagnatrice de crise.
Oui, de crise, le terme exact est vraiment accompagnatrice en sortie de crise personnelle. Chaque terme est bien pesé. Je peux les développer maintenant.
Et c'est un point aussi qui est important pour vous. Oui. Donc on vous écoute.
Hein, oui. Oui, c'est important pour moi parce que la vie m'a amené des personnes qui étaient en souffrance. Et en fait, j'aime accueillir ces personnes, les prendre par la main, voir avec elles ce qu'elles vivent et ensuite les rediriger vers un professionnel. Parce que je ne suis pas professionnelle.
Donc vous n'avez pas suivi une formation
particulière non,
pour ce suivi
non,
de
pas
personnes
du tout.
En sortie de crise
hein. En sortie de crise. Je m'appuie sur ce que j'ai traversé, sur le travail psychologique, thérapeutique, cognitif que j'ai fait sur cette question. L'écriture de ce livre aussi en témoigne, avec une bibliographie conséquente, avec des références dans le livre. Je m'appuie sur ce travail pour être... un petit peu comme je suis en tant que journaliste où je suis un canal, là je suis un petit peu le canal entre un futur patient et son psychiatre. C'est une personne que j'ai accompagnée qui m'a dit ça, qui m'a dit en fait, si je n'étais pas passée par toi, je ne serais jamais allée voir le psychiatre. Et donc c'est là où pour moi c'est intéressant, c'est de laisser l'accès à la psychiatrie possible, puisque on sait que quand on souffre comme ça, c'est quand même souvent par la psychiatrie qu'on s'en sort. Je veux dire la prise notamment des médicaments.
Alors quand vous parlez, ça peut effrayer aussi un bon nombre d'auditeurs. Quand on parle aussi de psychiatrie, de psychiatre, tout simplement, on pense à finalement maladie mentale et folie.
Oui, on pense
folie,
à folie.
Hein, c'est le terme qui est souvent et qui fait écho et qui est un répulsif pour beaucoup.
Et oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que la psychiatrie n'a pas du tout ses lettres de noblesse aujourd'hui en France. Dans la préface de ce livre, le docteur Delcul le dit. Il dit la psychiatrie fait des miracles et personne ne le sait. Il faut rendre possible l'accès aux soins en psychiatrie. Je crois qu'il y a un vrai sujet au niveau de l'hôpital et de la psychiatrie notamment.
C'est un sujet que vous voulez aujourd'hui rendre finalement accessible, montrer que la folie, la dépression ne rend pas fou. C'est une maladie de l'âme, c'est une maladie de l'être. Comment, 13 ans après, vous pouvez évoquer avec, je dirais, votre expérience propre, cette maladie de la dépression et dépression sévère en ce qui vous concernait?
Tout à fait. Je dirais, alors il y en a qui parlent de cancer de l'âme. Pour moi, ça... C'est la façon dont je le décris, ça a atteint les quatre composantes de mon être, c'est-à-dire que mon corps a été touché puisque j'ai été dans l'épuisement physique, mon âme a été touchée puisque j'ai été dans la colère, dans la révolte, dans la détresse, mais tout en gardant la foi, c'est important de le préciser, mon esprit a été profondément touchée puisque je ne pouvais plus lire une ligne, plus regarder un film, plus écrire. J'étais vraiment dans ce manque total des capacités intellectuelles et cognitives. Et mon cœur a été touché. J'étais dans l'incapacité d'aimer. Donc cette maladie touche toutes les composantes de l'être et c'est ce qui fait que quand une personne m'est amenée ou vient vers moi, j'ai vraiment à cœur de passer au crible ces quatre composantes. C'est sans doute pas juste au niveau neurologique ou médical, hein, cette description des quatre composantes, mais en tout cas pour moi c'est un outil pour montrer à la personne qui vient vers moi l'état dans lequel elle se trouve et comment on peut s'en relever.
Donc, et pour vous, la sortie de cet ouvrage, de ce premier bébé, on peut dire.
De ce sixième bébé.
Sixième bébé, puisque vous êtes mère de famille, de cinq enfants. Il est important, c'est un outil aussi pour éveiller, réveiller, informer, avant qu'il ne soit au fond trop tard, et que l'on peut soigner, qu'on peut s'en sortir.
Oui.
C'est aussi une série des clés pour vivre sur le thème de la dépression, mais des clés pour vivre, en sortir et retrouver ce goût à la vie plein d'espérance.
Exactement, c'est un message d'espérance parce que je m'en suis sortie. Je suis guérie maintenant depuis une dizaine d'années.
Donc vous parlez de guérison.
Je parle de guérison.
Donc qui dit maladie ?
Ah, tout à fait. Ah, c'est une maladie. On est tout à fait d'accord. C'est une maladie qui touche des facultés cognitives, intellectuelles, spirituelles. On est dans la traversée d'une maladie. Et cette maladie, d'ailleurs, si je peux vous donner...
Allez-y, c'est ainsi que nous terminons l'échange du jour.
Oui, eh bien, si je peux vous donner une petite référence, par exemple, cette maladie se retrouve aussi dans l'intestin. Pourquoi je vous dis ça? Puisque j'apprends, en travaillant sur ce livre, Le charme discret de l'intestin, de Julia Enders, que 200 millions de neurones sont présents au niveau de l'intestin et que ce système nerveux entérique communique de manière étroite avec le système nerveux central. Voilà, autre indication très intéressante, c'est qu'en traversant une dépression, il y a une inflammation intercérébrale qui entraîne une perturbation de la synthèse de la sérotonine. On sait que c'est la molécule de l'humeur, et une altération des neurones et de leur renouvellement. On a vraiment des indicateurs physiques de la maladie de la dépression.
Donc d'où aussi la maladie, d'où aussi besoin aussi d'un traitement ?
D'un traitement, on ne guérit pas de dépression sans un traitement médicamenteux, c'est évident. C'est aussi une phase compliquée d'acceptation de la part du patient.
Vous en parlez aussi dans votre ouvrage, 13 ans après, vous l'avez écrit, cet ouvrage. Donc vous l'avez traversé, vous avez pris du recul, la réflexion qu'il fallait pour mettre par écrit. Et puis au fond, aujourd'hui, vous acceptez aussi les interviews pour vous exposer encore plus. Mais c'est plus fort que vous, c'est peut-être un appel pour venir donner quelques lumières sur cette maladie qui reste encore une maladie très taboue. On en reparle, si vous le voulez bien, demain dans des clés pour vivre. Vous avez trouvé vos propres clés et c'est un témoignage plein d'espérance pour ceux qui seraient encore actuellement dans cette traversée d'une dépression sévère. Donc, encourageons aussi les personnes et puis l'entourage, hein, les proches, les époux, les enfants, les épouses. Hein, voilà. Encourageant, témoignage plein d'espérance. À demain, même lieu, même heure.
Merci Nathalie, à demain.